C'est juste pour l'ambiance.
Du début, parce que c'est particulièrement pertinent. Qu'est-ce que l'on entend? Alors, soit un tic-tac, soit un battement de cœur, et en termes de rythmique, évidemment. Et puis, le choix orchestral est simple, en fait, c'est de l'orgue. Donc, immédiatement, on pense à de la liturgie, à une sorte de religiosité. Et en fait, ça, cette idée de temps, de durée, de vie, de flexibilité du temps, flexibilité de la vie aussi, et de ce que l'on peut faire de sa vie et de la fin de sa vie, c'est quelque chose qui est, ce sont des notions que l'on retrouve dans pratiquement tous les films de Nolan. Alors on va voir un certain nombre d'extraits qui sont assez parlants, sur différents développements de la thématique du temps chez Nolan. Et puis après, pour terminer, on verra aussi que la manière dont il travaille cinématographiquement, notamment en termes de structure scénaristique. Bon, je pense que pour la plupart, vous avez vu à peu près tous les films de Nolan, sinon vous ne seriez pas là. Mais une fois que l'on voit certains extraits. Ça s'éclaire beaucoup.
Near black hole. Time's gonna change for me. Things gonna run more slowly. We get back.
Bien, voilà. Donc elle vient de jeter à terre le symbole du temps, puisque elle a compris que le retour était improbable en imaginant qu'il revienne, et dans ce cas il ne serait plus le même, et surtout elle ne serait plus la même. Le plan emblématique, évidemment, de cette petite scène que j'ai coupée, hein, c'est l'échange de l'emblème, à savoir la montre. Pas seulement pour la mesure du temps, mais pour la synchronisation des deux existences. À savoir, est-ce qu'ils conserveront leur même relation, même biologique, avec une altération de du temps local de l'un par rapport à l'autre. Ça amène tout de suite au temps, en fait, à la variabilité du temps chez Nolan. C'est-à-dire, en gros, les variations. Et alors, c'est vrai que dans certains de ses films, il joue sur, disons, une approche assez intuitive de ça. Par contre, sur d'autres, il cherche très clairement à se documenter au maximum pour que le scénario soit, disons, plausible. Pour Interstellar, c'est assez typique, puisqu'il a quand même travaillé avec un prix Nobel. Alors, on se retrouve avec quelques cas de figure qui sont, somme toute, assez classiques, pour qui est habitué à la relativité.
I know it must be 23 years, 4 months, 8 days.
Oh? I was prepared, I knew theory and reality stick to it.
And Miller?
There's nothing here for us.
Had a couple of fractures. I stopped believing you were coming back. Something seemed wrong about dreaming my life for.
Alors, ce qui est intéressant là, c'est en fait la notion dont d'ailleurs parlait Roland Lehoucq ce matin, à savoir, il ne s'agit pas seulement d'une question de relativité du temps par rapport à un déplacement dans l'espace. Là, c'est vrai qu'ils sont près d'un trou noir, donc il y a une force gravitationnelle telle que l'on se retrouve avec des différences très importantes, même sans avoir de mouvement particulier. C'est un tournant assez intéressant dans le film, parce que, non seulement là, on a les effets qui avaient déjà été explicités au début du film, sur les effets du trou noir, mais également on a le drame personnel des personnages qui ne vont pas pouvoir retrouver les êtres qu'ils aiment comme ils les ont quittés. La durée quand même qui équivaut pratiquement à une génération casse absolument toute relation entre les personnes, enfin toutes. Non, mais en tout cas, celle qu'il y avait au départ. Alors, le temps variable aussi selon l'espace imaginaire. Vous voyez où on veut en venir. Le temps n'est pas seulement physique chez Nolan, il est également inscrit à l'intérieur du cerveau. Et là, on a clairement une subjectivité de l'appréciation du temps. Alors, toute personne qui rêve assez régulièrement le sait, toute personne qui prend des substances tout à fait déconseillées par la loi le sait aussi. Et les personnes qui font les deux sont particulièrement au courant. C'est-à-dire que c'est vrai que les durées de rêve, en fait, changent énormément. Mais clairement, scientifiquement, mais ce qui est amusant, c'est qu'on a toujours le sentiment au réveil, quand on se rappelle de ses rêves, et généralement ce sont les derniers, hein, dont on se rappelle, parce que les premiers, là, voilà, ce sont des limbes. Mais les derniers, finalement, on donne le sentiment au réveil d'avoir duré assez longtemps. Alors qu'en fait, bon, ce sont les plus longs, biologiquement parlant, enfin, que l'on peut quantifier, hein, mais leur durée est nettement inférieure à ce que l'on a dans ses souvenirs.
Don't tell me to calm down. This was your job, goddammit. This was your responsibility. You were meant to check Fisher's background thoroughly. We are not prepared for this type of violence.
We have dealt with subsecurity before. We'll be a little more careful and we're gonna be fine.
This was not a part of the plan. He's dying for God's sake. Don't do that. Don't do that.
He's in agony. I'm waking him up.
It won't wake him up.
What do you mean it won't
wake him up? It won't wake him up.
When we die in a dream, we wake up.
Not from this. We should have hesitated to wake up that way.
Right, so what happens when we die?
We drop into limbo.
Are you serious?
Limbo?
Unconstructed dream space.
Well, what the hell is down there?
Just raw, infinite subconscious. Nothing is down there. Except for whatever might have been left behind by anyone sharing the dream who's been trapped there before. Which in our case, is just you.
Well, how long can we be stuck there?
I can't even think about trying to escape until the sedation is eased.
Decades. It could be infinite. I don't know. Ask him. He's the one who's been there. Just get him upstairs.
Great. Thank you. So, now we're trapped in Fisher's mind battling his own private army, and if we get killed, we'll be lost in limbo till our brains turn to scrambled egg.
So you knew about these risks, and you didn't tell us.
There weren't meant to be any risks. I didn't know we'd be dealing with a load of gunfire. You had no rights. It was the only way to go 3 layers deep.
And you knew about this and went along with
it. I trusted him.
You trusted him when he promised you half his share?
No, his whole share. Besides, he said he'd done it before.
We'd done it before. What, with Mom? Because that worked so good?
It has nothing to do with it. I did what I had to do to get back to my children.
So you led us into a war zone with no way out.
There is a way out. All right, we continue on with the job, and we do it as fast as possible, and we get out using the kick, just like before.
Forget it. If we go any deeper, we just raise the stakes. I am sitting this one out on this level, boys.
Fisher's security is surrounding this place as we speak. 10 hours of flight time is a week at this level. That means each and every one of us will be killed. That I can guarantee you. We have no other choice but to continue on and do it as fast as possible.
Voilà, il faut aller de plus en plus vite pour échapper au temps qui se déroule plus lentement. Alors maintenant, ceci dit, il y a différents niveaux dans Inception. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte en fait de la manière dont ça fonctionne dans le scénario, à savoir qu'à chaque niveau, bah, on multiplie par 20. Évidemment, ça va très très vite à ce niveau-là. Jusqu'au point où on se dit qu'à partir du moment où, au dernier niveau, la somme d'heures, de jours, bah, d'années même est tellement énorme que on approche de l'infini, dans le sens où, effectivement, on est dans l'illusion, on est dans le plus profond du rêve. Alors, reprenons un peu l'idée de la musique. Zimmer au départ, je parlais de vie humaine et d'une certaine forme de dimension religieuse qu'il y avait par l'utilisation de l'orgue. clairement, là, sous une certaine forme paradoxale, on atteint l'immortalité en étant complètement dans le niveau le plus profond de l'inconscient. Alors, c'est intéressant parce que c'est assez paradoxal. Généralement, bon, enfin, le personnage principal, de toute façon, il va pour du souvenir. Mais le souvenir n'est pas l'existence. Et de toute façon, on peut se poser assez raisonnablement la question philosophique la vie vaut-elle d'être vécue si elle n'a pas de fin? Vous avez 3 heures. En fait, le truc, c'est une question classique, évidemment. Et là, en plus, c'est une vie artificielle parce qu'elle est rêvée, à moins que finalement le reste du temps on soit également des dormeurs, mais qui s'ignorent. Je ne sais pas où en est votre toupie que vous avez lâchée sur la table avant de partir. Est-ce qu'elle est tombée? C'est vraiment intéressant d'avoir cette progression en fait vers presque une sorte d'asymptote à une droite qui serait qui représenterait l'infini. Alors, Nolan avait commencé par un film qui n'est pas très très connu, parce que, tout simplement parce qu'il n'a pas vraiment été redistribué au cinéma, qui est c'est un long métrage, mais d'une durée assez courte, donc ça fait, je crois, 1h05, donc c'est suffisant pour rentrer dans la catégorie du long métrage, parce qu'il faut que ça dépasse l'heure, en gros. Mais néanmoins, c'est un court long. Voilà. Maintenant, Following est assez intéressant. D'abord, bon, évidemment, comme beaucoup de premiers films, il est réalisé avec 3 francs 6 sous. C'est noir et blanc, très peu de matériel d'éclairage, très peu d'acteurs, relativement peu de lieux. Mais ce qui est intéressant dedans, c'est d'abord, Nolan étant parfaitement conscient des limites de la production pour un premier long, décide de ne pas suivre, en fait, de ne pas développer un scénario de manière traditionnelle, ça c'est ce qu'on verra tout à la fin, donc de façon linéaire, mais travaille déjà un cinéma qui est déstructuré de manière à amener des événements dans un ordre qui n'est pas celui traditionnel, de manière à laisser le spectateur faire le travail de reconstruction. Et puis, en ce qui nous concerne, encore que le travail de déconstruction, de toute façon, c'est de la déconstruction de temps, aussi de scènes temporelles qui sont dans un sens autre que celle de la dramaturgie classique, mais indépendamment de ça, dans Following, il montre quelqu'un qui, lui, par contre, a vraiment rien à faire de sa vie et qui s'amuse à qui a une sorte de hobby qui consiste à finalement presque échanger sa vie avec celle de personnes qu'il ne connaît pas.
Been to a football match, just let your eyes go over a drift across a crowd of people. And they slowly stop and fix on one person, and all of a sudden that person isn't part of the crowd anymore. They become an individual. Just like that. Just became irresistible.
So you followed women?
No, I didn't follow women. It wasn't a sex thing. I followed anybody. I just wanted to see where they went, what they did.
You were playing a secret agent?
No, I'm a writer. Well, I want to be a writer anyway. I was gathering material for my characters. Well, to begin with.
Désolé pour la synchro.
Alors, c'est quand même assez typiquement anglais. Bon, de toute façon, l'accent témoigne. Les prises de vue à l'extérieur aussi. Mais dans l'absolu, on pourrait même dire que c'est finalement, indépendamment du style cinématographique qui pourrait très bien avoir été le fruit de la culture américaine hors Hollywood, il y a quand même une dimension assez européenne en fait. Nolan est anglais, il n'est pas américain, et il y a une dimension de fascination pour le temps qui est quand même assez proprement, pour moi, européenne, dans le sens où les États-Unis sont assez obsédés par l'espace. Et c'est normal, vu le continent dans lequel ils vivent. Il n'y avait que pour inventer des formats larges, même s'il y avait eu des antécédents avant. Je veux dire, bon, Abel Gance en 27 avait fait Napoléon avec trois écrans côte à côte, donc on avait vraiment un écran extrêmement large. Mais mis à part ces quelques expériences qui n'ont pas vraiment été développées industriellement, l'espace, le grand format, c'est quelque chose d'assez américain. De la même façon que les récits de type soit western, soit road movie, il y en a en Europe, mais en Europe on a quand même tendance à être beaucoup plus obsédé par en fait plutôt la verticalité, le temps. On peut écrire tout un cycle juste pour retrouver le goût d'une madeleine. Enfin, non mais sans rire, je ne crois pas qu'un Américain aurait pu penser à ça. Et c'est vraiment un truc lié à l'histoire et à la chronologie et au sentiment. Donc c'est une des raisons pour laquelle Nolan a amené quelque chose aux États-Unis, c'est que... Et bon, il y a toujours plein de contre-exemples. Il n'y a aucun problème dans l'absolu. On prend Citizen Kane et puis ça y est, vous avez déjà trouvé un contre-exemple. Et il y en aura toujours. Mais de façon générale, quand même, le temps est davantage une obsession européenne qu'américaine. Alors, le temps est éminemment subjectif, évidemment. Et donc, même si c'est pas forcément une madeleine, ça reste quand même un souvenir. Et puis, ben, on voyait tout à l'heure les différentes profondeurs de psyché qu'on peut avoir. L'espace personnel caché, enfin le temps personnel, c'est-à-dire en fait le passé, clairement, est un espace-temps spécifique. Vous avez vu que là, par exemple, le mouvement de l'ascenseur est très malin. Elle descend, elle ne va pas monter vers cet espace secret. Elle va descendre, elle est entier.
You remember when you asked me to marry you?
Of course I do.
You said you had a dream.
Donc voilà un espace secret que, qu'en l'occurrence, elle ne devait pas découvrir. Alors, ce qui est intéressant dans Inception, évidemment, c'est la manière dont c'est mis en scène. Parce que c'est pas très simple. En fait, il y a très peu de réalisateurs qui peuvent réussir à casser les espaces, à permettre de passer de l'un à l'autre de façon logique. C'est-à-dire, en fait, logique pour un être humain, mais pas logique au niveau spatial. Typiquement, René a été assez fort là-dessus. On l'a par exemple dans Providence où on peut ouvrir une porte et on se retrouve dans un espace qui ne correspond pas en fait géométriquement à ce qu'il devrait y avoir derrière. Mais encore une fois, d'ailleurs, dans la Providence, c'est pas si illogique que ça, vu qu'on est dans les souvenirs fantasmatiques d'un vieil homme proche de la mort, qui accessoirement vide des bouteilles de vin blanc à une vitesse extraordinaire, et qui mélange fiction, vie de famille réelle, et donc qui reconstruit absolument tout avec des décors qui ne correspondent pas forcément à la bande son, enfin aux effets sonores, et ainsi de suite. C'est ce type d'espace tout à fait improbable que Nolan arrive très très bien à développer avec, avec quand même des moyens techniques plus importants dans Inception. Alors, il y a aussi chez Nolan un autre type de temps qui est le temps qui n'existe plus. Parce que finalement, le temps existe tant qu'on en a un souvenir ou tant qu'on en a une trace. Si on efface la trace, notamment, l'événement ne s'est plus produit. Alors, ça, on le sait tous parce qu'il y a toujours eu, de par l'histoire, quelques grands mauvais hommes qui ont essayé de tout démolir pour refaire l'histoire telle qu'il désirait qu'elle soit. Et puis bon, vous avez à peu près, je pense, tous lu 1984, hein, qui contrôle le passé, contrôle le présent, etc. Donc là, on a un exemple assez singulier dans Interstellar.
Miss Hanley's here to talk about Murph.
Murph is a great kid. She's really bright, but she's been having a little trouble lately. She brought this in to show the other students the section on the lunar landings.
Yeah, it's one of my old textbooks. She always loved the pictures.
It's an old federal textbook. We've replaced them with the corrected versions.
Correct.
Explaining how the Apollo missions were faked to bankrupt the Soviet Union.
You don't believe we went to the moon?
I believe it was a brilliant piece of propaganda that the Soviets bankrupted themselves, pouring resources into rockets and other useless machines.
Useless machines?
And if we don't want a repeat of the excess and wastefulness of the 20th century, then we need to teach our kids about this planet, not tales of leaving it.
And one of those useless machines they used to make was called an MRI. And if we had any of those left, the doctors would have been able to find the cyst in my wife's brain before she died instead of afterwards. Then she'd have been the one sitting there listening to this instead of me, which has been a good thing because she was always the calmer one.
Oui, j'ai pensé que c'était pas la peine de prolonger la scène. La dernière ligne était très bien. Alors, ce qui marque dans la scène, c'est que la responsable d'éducation y croit. Il n'y a aucun problème, elle n'est pas en train de feindre. Alors, évidemment, au niveau de la mise en scène, c'est très simple. Déjà, on fait un casting avec une personne plus jeune que les autres et du coup qui n'aura pas connu le programme Apollo et donc qui ne pourra pas vérifier les informations, les nouvelles, disons la réécriture de l'histoire qu'on lui impose. Donc là, c'est une question de génération et c'est assez bien orchestré parce que Nolan, évidemment, joue sur une certitude qu'il a, à juste titre, c'est que les spectateurs, eux, par contre, savent que les missions Apollo ont existé. Et, bon, à part quelques personnes qui soupçonnent Kubrick d'avoir bricolé dans son garage, que l'on a réellement, quand même, marché sur la Lune. Bon. Donc, on se retrouve avec une certaine forme d'ironie dramatique. On sait très bien ce qui est en train de se passer, donc tout ce que l'on attend en termes d'évolution dans la scène, c'est la manière dont lui va réagir par rapport à ce qu'on lui dit. Et il reste très très calme, effectivement, quand même, quoi qu'il en dise. Alors, le temps a multiples dimensions. Ça,
c'est quelque chose qui est intéressant. À partir du moment où on parle du temps, c'est assez difficile de faire l'impasse sur les mathématiques. Et par contre, moi, je fais l'impasse sur les mathématiques parce que c'est pas du tout mon rayon. Par contre, il est vrai qu'il y a un certain nombre de visuels à la fin de Interstellar qui sont très intéressants, où notamment on voit quand même des sortes d'hypercubes, donc des cubes de dimension n, n étant supérieur à 3, je te rappelle quand même, ça je le sais. Et alors comme symbole d'une période, effectivement, parce que à partir du moment où on a un espace-temps qui englobe une période complète, en fait, on a un ensemble d'instants qui sont recroquevillés, qui sont mis en un seul volume, en un seul objet. Ça, c'est quand même le genre de truc qui doit être assez rigolo à écrire quand on est avec sa tasse de café ou son verre de whisky, tranquille, en pantoufle devant son ordinateur. Et puis ensuite, on file l'idée à des designers visuels qui s'arrachent les cheveux pour se dire comment on peut mettre ça en scène, finalement. Et ça marche très très bien.
One little girl's bedroom, every moment. It's infinitely complex. They have access to infinite time and space, but they're not bound by anything. They can't find a specific place in time. They can't communicate. That's why I'm here. I'm gonna find a way to tell Murph, just like I found this moment.
How?
Love, Tars, love. It's just like Brian said. My connection with Murph, it is quantifiable. It's the key.
What are we here to do?
Find out, I tell her. The watch. The watch. That's it. We code the data into the movement of the second hand. Tars, translate the data into Morse and feed it to me.
Translating data to Morse. Cooper, what if she never came back for it?
She will. She will.
Murph, I can see his car! He's coming, Murph!
Okay, I'm coming down.
How do you know?
Because I gave it to her.
Alors, la scène est un peu longue en termes d'exemple parce que, bon, elle est tout simplement découpée en plusieurs parties. La première, quand il est dans la plongée de l'instant, du contexte temporel démultiplié parce que c'est le symbole de tous les instants de la chambre, là, on se retrouve avec quelque chose d'assez intéressant. Bon, d'abord, c'est un véritable labyrinthe. Mais deux, la structure visuelle obéit quand même en fait à une architecture qui est plausible, à savoir notamment, on a quand même une organisation géométrique de salle en salle, et à chaque fois, on a dans chaque salle des informations, c'est-à-dire en fait des variations assez minuscules généralement, d'un instant à un autre, puisque tous sont là. Alors, évidemment, tout de suite, ça peut faire penser à quelque chose. C'est la bibliothèque de Babel de Bresse, d'accord. Et dans la bibliothèque de Babel, qu'est-ce que l'on a? On a, selon Bresse, tous les livres possibles, écrits, non écrits, ou de langue existante ou de langue non existante. Bref, on a absolument tous les possibles. Par quoi communique-t-il, en fait? Par le biais de la bibliothèque depuis le début de ce film. C'est
le labyrinthe s'organise exactement de la même façon, et là du coup le directeur artistique a réussi à ne pas s'arracher les cheveux parce qu'il a de la culture littéraire qui en fait lui a permis de trouver un biais pour mettre en image quelque chose qui en fait relève du littéraire. Ce sont ces passerelles qui ne sont pas forcément très très évidentes à trouver quand on s'attaque à des sujets comme le temps. D'ailleurs, je fais une parenthèse immédiate, c'est que bon, tout à l'heure je parlais du fait que Nolan utilise beaucoup de scénarios déstructurés ou non linéaires dans ses films. Ces procédés, finalement, on les voit de plus en plus souvent dans le long métrage et même dans les séries à l'heure actuelle. Il y a eu quelques antécédents, notamment, bon, je parlais de René Buñuel en a fait aussi, mais finalement, en cinéma, on a assez rarement osé faire ça. Par contre, au niveau littéraire, ça existe depuis beaucoup plus longtemps, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Hein. Ensuite, le reste de la scène, je passe sur le fait que on puisse résoudre tous les mystères de l'univers grâce à l'amour. La première fois que j'ai vu Interstellar, j'ai eu des doutes sur la validité du film. En fait, il est très bien, mais ça nécessite peut-être souvent une seconde de lecture tout de même. Parce que, sinon, il y a les premiers degrés qui sont durs. Donc, ils sont chacun de part et d'autre de la paroi de livre, de la connaissance. Donc, il va jouer le rôle de fantôme. Et il envoie son signal en morse et il utilise l'emblème de la montre que l'on avait vue tout à l'heure. C'est la même. Alors ça, par contre, bon, ça fonctionne très très bien en scénario comme en mise en scène, et c'est un truc extrêmement malin. Indépendamment, ça permet aussi à Nolan de faire quelque chose que l'on va encore voir après, qui est de faire des très gros plans sur les emblèmes, en l'occurrence là, le très gros plan sur le cadran de la montre, et même dans certains films, on se retrouve avec des très très gros plans uniquement sur les aiguilles, avec un traitement sonore en conséquence. Et donc, d'ailleurs, on y va. Les instruments de mesure du temps chez Nolan. Alors, il y en a pas mal. Mais ils sont assez classiques, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont tous reliés en fait à des mécanismes que l'on connaît, nous. Donc, le fait que ces instruments soient ordinaires nous permet au public de pouvoir disposer d'une sorte de pont, de lien vers des données scénaristiques qui sont moins évidentes à comprendre. Alors, l'un d'entre eux, c'est le sable. Le sable est notamment très utilisé dans Interstellar. Alors, le premier extrait, on pourrait se dire que ça n'a pas grand-chose à voir avec le temps, mais un petit peu. En tout cas, par rapport au scénario. Ouais, c'est pas le moment de sortir les sandwichs. Donc, là, évidemment, on a une référence aux grandes tempêtes de sable qui avaient ravagé certains états aux USA pendant les années 30. Ce n'est pas exactement le sable en tant qu'instrument du temps, mais par contre, c'est le sable en tant qu'instrument de la perdition de la planète et de la mort. Donc, quelque part, on retombe quand même sur l'idée du temps. C'est l'ennemi. C'est lui, l'antagoniste premier du film. Plus rien ne pousse. On a plus de... Donc, les ressources alimentaires s'amenuisent, tout ça, à cause du sable qui s'infiltre partout. Donc, le sable... Plus le sable arrive, plus le temps... Enfin, plus la fin des temps, disons la finition est proche. Ça vous dit quelque chose, ça? On va voir l'instrument. D'accord. C'est le, il utilise le sable parce que c'est, on aurait pu utiliser l'eau dans d'autres cas avec des horloges à eau ou des engrenages, mais c'est vrai que le sable a quand même un intérêt, c'est que visuellement c'est assez fort. C'est, on est quand même dans du cinéma et il faut que les, on ait des images marquantes. Alors, le sable oblige à rester chez soi. Vous avez bien compris que là, voilà, on ne va pas pique-niquer quand il fait ce temps-là, dans son espace-temps. Mais il a aussi une autre fonction, c'est celui d'être messager. Nous avons le constat. Le sable s'écoule. On verra plus tard que le message, on comprendra, vient du futur. Là, on pourrait, ce qui est intéressant, imaginer qu'on est dans le cadre d'un récit plutôt fantastique. Bon, on a quelques plans qui permettent de l'extérieur des plans d'insert qui permettent, plans de coupe, quoi, qui permettent de faire une ellipse de manière à retrouver les deux personnages un petit peu plus tard. La lumière en témoigne, on n'est plus tout à fait à la même heure que la journée. Mais ce qui est intéressant, c'est là. Il est en contemplation.
It's not a ghost.
Regardez ses mains.
I'm dropping Tom, then heading to town. You want to clean that up? When you finish praying to it?
Et c'est exactement ça. Vraiment, les mains jointes, à même le sol, en train de contempler un phénomène, un message venant d'où, puisque c'est une tempête de sable, venant du ciel. Je vous disais, en fait, il y a chez Nolan une approche à la fois scientifique, quelquefois un peu surréaliste, mais en même temps assez empreinte de mysticisme. Le sablier a souvent été évidemment utilisé dans les représentations classiques, hein, donc là, typiquement bas-relief. Sablier et ossements, tous les tableaux des vanités généralement incluent un outil de mesure du temps. Alors, comme ce sont des toiles qui ont déjà quand même plus de 3 siècles, parce que ça va être principalement 16, 17 et 18. On peut mettre évidemment quelques montres, mais enfin il n'y en a pas vraiment beaucoup, donc c'est le sablier qui va être le plus représenté pour rappeler que l'on va évidemment mourir. Si vous faites des recherches sur les vanités, vous allez vous apercevoir qu'il y a à côté des instruments de plaisir du type instrument de musique, etc., et du grand classique crâne pour rappeler l'échéance fatale, il y a évidemment le sablier. Et puis, puisque l'on sait que le temps est élastique, puisque l'on sait qu'il y a une finition à l'être humain, on peut imaginer
le fils rendant visite à sa fille mourante. On retrouve la musique que l'on avait au début, que j'avais mise en introduction. Alors, cette scène est intéressante parce qu'en fait, il se passe quelque chose de surprenant. Elle est onirique, mais elle est amenée dans le scénario par un moyen assez intelligent. C'est-à-dire que on sait depuis le début du film, parce qu'on a suivi, que de toute façon, lui est à 124 ans et que donc ne peut être que largement plus jeune, enfin 124 ans. Il a vécu 124 ans, mais il n'a pas vieilli 124 ans. Donc il est de toute façon plus jeune que sa fille. On le sait. Et donc, cette scène, quelque part, pourrait, d'un point de vue purement narratif, être tout à fait inutile. Dans l'absolu, quand il revient à son époque, sa fille pourrait être morte. En plus, là, on apprend dans l'histoire qu'elle était dans un sommeil artificiel depuis 2 ans. Bon, il n'y avait pas nécessité. En fait, c'est toute la fin du film qui est assez énigmatique. Et quand on regarde le début de ce plan, qu'est-ce que l'on a ? Il ouvre la porte et il y a finalement tous les autres membres de la famille qui sont là. Bon, on entend le son des pas, les plans suivants, de toute façon on ne les retrouvera pas. Qu'est-ce qui est surprenant? C'est que les autres membres de la famille ne s'étonnent absolument pas de sa présence. Alors que, bon, mettez-vous à leur place, je vous assure qu'il y en a quelques-uns qui pourraient crier même. Honnêtement, c'est alors, pourquoi ? Parce qu'il y a quand même toute une lecture de la fin des Interstellar qui est peut-être à lire. On va le voir tout à l'heure, après qu'on ait terminé les instruments. Alors, on va continuer sur la montre, ça vous en doutiez, vu qu'on a déjà vu pas mal de plans avec cet instrument. Mais il y a d'autres films de Nolan dans lequel l'horloge intervient. L'horloge, là, elle est juste pour témoigner de l'heure, mais on est tellement à une haute altitude que de toute façon, on a du soleil tout le temps. Donc, il n'y a pas de possibilité de trouver la nuit et il n'y a plus que l'horloge pour informer de l'heure. Il y a évidemment dans Inception, je vous parlais des très gros plans sur les sur les aiguilles, avec le son donc qui est adapté. Alors, quel du moment précis, la synchronisation, évidemment. Bon, on avait vu cette scène tout à l'heure. Il y a aussi, en termes de synchronisation, l'instant répété, la synchronisation entre deux actions qui permettent de fabriquer un instant.
I thought she was just trying to catch me on guard, so I didn't tell her what he thought, but I never said that he was faking. This condition was mental, not physical. I found out later that she went home and gave Sammy his final exam.
Qu'est-ce qui se passe si on oublie?
It's time for my shot.
Mais Memento est un film assez intéressant, enfin même très intéressant, d'abord par sa structure que l'on va voir, mais aussi par le traitement. On passe de la couleur au noir et blanc selon les temporalités dont on parle à l'écran.
So she found a way to test him.
Sammy, it's time for my shot.
She really thought she'd call his bluff. Or she just didn't want to live with the things she put him through.
Bon, vous remarquerez qu'à chaque fois, les plans sont répétitifs, on a les mêmes angles pour les mêmes actions. C'est une boucle. Les mimiques sont quasiment les mêmes. La tension dramatique monte. Et puis à côté du sable et de la montre, il y a donc, on en parlait, des livres. Alors, la barrière de livres, les étagères qui remplissent les murs, c'est quelque chose que l'on rencontre quand même assez souvent. Là, c'est dans Following, on a la bibliothèque derrière.
But we're not moving.
Really? Oh, now I should check the engine now.
On a évidemment celle d'Interstellar. Et l'autre côté. Et puis, il y a l'omniprésence de la photographie. Et en fait, beaucoup plus évidente beaucoup plus importante qu'on le croit. On pense tout de suite à Memento, parce que c'est quand même un film qui est assez emblématique, ne serait-ce que par l'utilisation des Polaroids. Mais on retrouve la photographie dans d'autres films. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un temps. Oui, c'est une portion de temps, mais ce n'est pas un temps en mouvement. Sauf dans certains cas. Alors, dans Memento, c'est clair, la photographie a un rôle d'aide-mémoire. C'est le temps souvenir figé par le biais d'une image et de quelques remarques qui sont marquées sur les photos, sur le recto ou le verso. D'ailleurs, c'est un turning point dans le scénario très important, parce qu'à partir de ce moment-là, il va se fourvoyer complètement. On a dans Following aussi.
Stuff like that. It was supposed to just be completely random. And when it stopped being random, that's when it started to go wrong. When I started to follow people. Specific people when I selected a person to follow.
la photo d'identité. Que peut-on imaginer de plus emblématique d'une personne?
Dans Inception,
how is he? I don't want to bother him unnecessarily, but
keep on the town.
Wait, say to it. Get the pull it through.
Image du passé. Bon, le père envoie valdinguer une photo de famille. C'est suffisamment symbolique pour savoir ce qu'il pense de la famille. Par contre, la photographie peut prendre vie en se déconstruisant.
Ça, c'est le super générique de Memento qui est entièrement organisé sur la disparition du moment. C'est-à-dire la disparition de l'instant que pourtant la photographie avait prise. Simplement en utilisant en fait le procédé du Polaroid. Quand on voit le processus de révélation de l'image, mais on le met à l'envers. C'est une trouvaille absolument sublime, très cinématographique. Là par contre, essayer de trouver l'équivalent littéraire, bon courage, c'est vraiment une scène de cinéma. Perd la mémoire, donc tout ce qu'il peut avoir possédé, tout ce qu'il peut posséder d'image s'efface. On revient au blanc. Alors maintenant, vers l'infini et l'au-delà. Alors pourquoi l'au-delà? Vous avez bien compris que c'est encore la dimension mystique de Nolan qui va jouer, et je vous parlais de du final de Interstellar qui peut avoir un certain nombre d'interprétations. À partir du moment où il a terminé sa mission, il se perd dans des effets psychédéliques à base de champignons venus de l'espace. C'est ça, ou alors on reste jaloux de la fin de 2001, l'Odyssée de l'espace à vie. Et là, il fait une petite rencontre, il dit bonjour, il flotte dans l'espace. Ceci dit, vous notez bien que les images fonctionnent très bien, et notamment la qualité des flares et de la lumière, parce qu'en fait, c'est vraiment un film qui est tourné de manière analogique, argentique, et que en fait, ça se voit dans l'image. J'ai rien contre le numérique, hein. Mais clairement, on a un rendu qui n'est pas tout à fait le même. Et hop, il se réveille.
Nice and easy, Mr. Cooper.
Explication.
Remember, you're no spring chicken anymore. Actually, you are 124 years old.
Ça arrive à tout le monde. Hein, bon.
Et ils l'ont trouvé donc en train de tournoyer dans l'espace près de Saturne. Et ils ont eu de la chance, et ça m'étonne pas, de le trouver. Alors ceci dit, donc il se réveille dans un espace complètement blanc. Il n'est pas totalement sans rappeler justement celui du vieil homme à la fin de 2001, avec, vous savez, le dallage lumineux, avec la lumière qui arrive par en dessous. Bref, un décor complètement improbable, mais pourtant avec des meubles qui avaient à peu près deux siècles d'âge. Alors, où est-il, en fait? Est-ce qu'il a vraiment été récupéré ou pas? Parce que, bon, quand même, on meurt vite, hein, dans l'espace. On a très, très peu d'oxygène, et on respire très, très peu, enfin, très mal quand il n'y a plus d'oxygène, vous êtes au courant. Donc, il se retrouve dans quoi? Dans le couloir de l'amour, puisque je vous avais dit, en fait, c'est votre thème, l'amour.
So, my suggestion to Miss Cooper I was delighted to hear that she thought it was...
Dans un décor tout à fait improbable. Regardez-moi ça. C'est le décor de sa jeunesse dans un cylindre. On retrouve les témoignages vidéo que l'on avait eus en ouverture de film. Bon, qu'est-ce que c'est que ce tunnel avec quelque chose de très très lumineux là-bas tout au loin? Il y a eu des récits comme ça. Hein. Donc, est-ce que toute la fin de Interstellar ne serait pas finalement, bon voilà, il est mort, sauf qu'on est en train de vivre son, de montrer à l'écran son, son voyage vers l'au-delà, vers l'infini, et sur l'au-delà surtout. Hein. C'est tout à fait, en fait, c'est tout à fait probable parce qu'il n'y a aucune justification ni à la, au fait qu'il soit déjà dans cette espèce de bibliothèque de Babel, comme je l'ai appelé tout à l'heure, ni qu'il fasse coucou à sa copine en plein trip aux champignons, ni qu'il se retrouve à finalement être, se réveiller sans trop de problèmes dans un hôpital avec des gens plutôt affables qui lui disent... Enfin, qui l'accueille comme si juste il s'était cassé une jambe la veille. Ensuite, d'avoir ce grand tunnel avec de la lumière au fond, et accessoirement que sa famille ne crie pas de terreur en le voyant arriver pour dire coucou à sa fille qui va mourir parce qu'elle a, en gros, allez, 70 ans de plus. La fin, enfin, j'ai dit tout à l'heure quand Interstellar était quand même le film le plus scientifiquement documenté de Nolan. Et la fin, en fait, ne fonctionne pas si on continue à l'apprécier de cette manière. Donc, il y a de fortes chances, en fait, qu'il ait basculé à un moment dans un autre paradigme narratif. Alors, justement, combien de temps nous reste-t-il ? 4 minutes. Le temps comme procédé narratif. C'est un cinéma, donc, qui est principalement non linéaire. Bon, généralement, vous connaissez le truc, théorie en 3 actes. On a une exposition, un développement et une résolution. Le temps est linéaire. Bien sûr, on peut quand même faire des flashbacks, généralement d'ordre explicatif pour apporter des précisions ou justifier certains comportements, des choses comme ça. Bon, plus rarement des flash-forwards parce que c'est un peu plus difficile à comprendre. Mais de toute façon, en tous les cas, que l'on soit dans le présent narratif ou dans le flashback, de toute façon, on est quand même dans un présent, on n'utilise pas l'imparfait et le passé simple, on est toujours à l'indicatif présent du cinéma. Dans Memento, alors clairement, ça c'est probablement le film qui est le plus emblématique d'un scénario déstructuré. C'est un scénario déstructuré, mais c'est un scénario qui est structuré un peu particulier, qui est le récit rebroustant. On ne peut pas le faire très très souvent celui-là, parce qu'en fait ça se repère, hein, une fois que imaginez qu'il y ait que vous voyez dans l'année 50 films qui utilisent ce procédé narratif, je pense qu'il y a un moment vous commenceriez à en avoir un tout petit peu marre. Donc l'intérêt de Memento, c'est d'avoir réussi en fait à travailler un scénario qui soit cohérent avec la mise en scène qui a suivi, c'est-à-dire que le fond et la forme sont en synchronisation, en accord parfait. C'est-à-dire, quand on regarde la timeline de Memento, bon, la chronologie classique, ça serait de partir de A et d'aller jusqu'à K. D'accord ? En fait, le film, on fait plutôt JK, puis IJ, puis HI, etc. Et puis on remonte comme ça jusqu'au début. Donc, c'est un gigantesque, une sorte de flashback à l'envers dont les séquences seraient dans le bon sens. Enfin, un truc comme ça. Alors, quand on voit le film, bon, les premières, allez, 20 minutes, on se dit, c'est quoi ce truc, là, il faut que je prenne des notes. Ensuite, on est dedans, et évidemment, on est pris par une espèce de mécanique, et ça fonctionne hyper bien. Par contre, il est certain que c'est extrêmement difficile à mettre en place, puis surtout, déjà, quand même, il fallait y penser. Alors, histoire de... Bon, on va pas tellement s'arrêter dessus, d'abord, on n'a pas le temps, puis ça tombe bien, parce que je veux pas non plus que vous précipitiez sur le Nurofen, il y a quand même
un certain nombre de procédés qui sont beaucoup plus complexes. Je parlais tout à l'heure de la problématique de porter de la littérature vers le cinématographique. En fait, lors de l'adaptation du Prestige, d'après Christopher Priest, il y a eu cette question qui s'est posée assez souvent, parce que il y a un moment où les enchâssements, où les temps qui sont trop différents et accolés sont très difficiles à traiter dans le cadre d'un film, tout simplement parce que dans un film, on ne peut pas arrêter la projection, revenir en arrière. Un film, théoriquement, je ne parle pas d'un DVD, mais quand on va en salle, on s'assoit et on a l'ensemble de la continuité qui se déroule devant nous sans aucune possibilité d'intervention temporelle. Donc, si à un moment on perd le spectateur, on est cuit. Surtout si on a vraiment une structure complexe qui gêne, voire empêche le spectateur de rattraper ce qu'il a perdu. Donc voici, histoire de rire, la timeline de Interstellar. C'est joli. Alors, elle est très cohérente, hein. C'est juste que, en fait, il faut vraiment se plonger dedans un petit peu de temps. Et puis bon, alors Inception, c'est un peu plus simple quelque part, parce que finalement, là, on a juste une organisation. Les actions de personnages par rapport au niveau de rêve, c'est quand même déjà plus simple que Interstellar. Allez, un petit dernier exemple avant qu'on se quitte. La maîtrise du temps, condition de la survie, hein, encore une fois, la vie, la mort, l'amour, le temps. Sur la montre. Et pourtant, le Prestige, en fait, n'est pas vraiment un film sur le temps. Ceci dit, alors parlons un peu de... Juste, allez, 30 secondes. Toujours de structure scénaristique, le Prestige est également assez déstructuré, mais toute l'idée du Prestige, ça, en fait, ça s'appelle du troisième acte au niveau scénaristique, à savoir, on montre l'oiseau, on le fait disparaître, mais le tour ne s'arrête pas là, il faut le faire réapparaître, c'est ça le truc. Donc, il est à la fois sur une structure en trois actes classiques, et en même temps, à l'intérieur, il se permet de remélanger quand même les séquences pour pouvoir envelopper la complexité du récit d'une sorte d'appel à participation du public, puisque finalement c'est ça aussi le cinéma non linéaire déstructuré, c'est de pouvoir dire au public, bon, on vous donne les pièces du puzzle, vous reconstruisez l'image, et on va vous dire en gros comment. Voilà.